Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, y a-t-il encore des guérillas ? Rafael Sebastián Guillén Vicente n'ira pas en prison. La justice mexicaine vient de renoncer à le poursuivre. Les faits pour lesquels il était recherché, rébellion, terrorisme, sont désormais prescrits. Alors le nom de ce guérillero ne vous dit sans doute pas grand-chose. Et c'est normal, puisque c'est sous une autre identité qu'il connut son heure de gloire à la fin des années 90. En ce temps-là, on se pressait dans le maquis zapatiste pour y croiser le sous-commandant Marcos. Alors, il est vrai que le personnage était captivant, visage en permanence dissimulé derrière une cagoule, un élément de son charisme. Le sous-commandant Marcos fut le porte-parole de l'armée zapatiste de Libération Nationale, une guérilla dédiée à la défense des intérêts des Indiens de l'État mexicain du Chiapas. En mai 2014, le sous-commandant annonce qu'il renonce à son personnage. Le voilà donc désormais libre de ses mouvements, sans risquer d'être inquiété par la justice de son pays. Un épilogue inattendu pour celui qui fut peut-être le dernier guérillero médiatique. Mais les guérillas ont-elles disparu pour autant ? Les FARC en Colombie, le PKK en Turquie témoignent-ils d'une survivance de ce mode de combat ? Ou au contraire de son déclin ? Y a-t-il encore des guérillas ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Et le premier se trouve à Rome, en duplex des studios de la RAI. Il s'agit de Gérard Chalian. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des guérillas et du terrorisme. Vous avez dirigé le Centre européen d'études des conflits. Vous avez été présent sur de très nombreux conflits. Vous êtes allé sur le terrain en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et on vous doit alors notamment, je vais citer votre dernier ouvrage qui a été publié chez Fayard, « Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh », un ouvrage que vous avez dirigé avec Arnaud Blin. Pour discuter avec vous, Jean-Vincent Olindre, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Université de Poitiers, vous y enseignez notamment les relations internationales. Vous travaillez, vos objets d'études en tout cas, ce sont les transformations de la guerre. Et on vous doit aux éditions Sciences Humaines, la guerre de nos origines jusqu'à nos jours. De nos origines même à nos jours, ouvrage là aussi dirigé en collaboration avec Laurent Testeau. Et puis troisième invité, Antoine Baume, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez une formation de philosophe, vous avez fait des recherches sur les littératures politiques et révolutionnaires, et c'est ce qui vous a conduit à publier un ouvrage qui vient tout juste d'être édité aux éditions Don Quichotte, de Gandhi à Daesh, avec ce sous-titre « Histoire honorable ou infâme de guérilla, d'insurrection et de déstabilisation ».
Nosotros somos del ejército zapatista de Liberación Nacional y estamos en la otra campaña. Llegamos aquí a Puebla hace 5 años a pedirles a ustedes que nos apoyaran para que fueran reconocidos nuestros derechos y nuestra cultura como pueblos indios. Llegamos a hablar como Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Voilà, on entend ici la voix, c'était il y a quelques années de cela, du sous-commandant Marcos lors d'un de ses meetings. Sous-commandant Marcos, je le disais, on se pressait dans le maquis zapatiste au Mexique pour le rencontrer. Ignacio Ramonet, tiens, par exemple, qui était un de nos invités hier, était allé l'interviewer, mais il y a aussi José Bové, il y a eu Manu Chao, il y a eu Daniel Mermet. Il y a peut-être eu vous, d'ailleurs, Gérard Chalian, est-ce que vous l'aviez rencontré ? Est-ce qu'il était aussi charismatique qu'on le disait ?
Non, moi je ne l'ai pas rencontré. J'étais dans la région, j'enquêtais sur un autre problème, celui des Indiens proprement dit.
Ça veut dire qu'aller voir le sous-commandant Marcos, ça ne signifiait pas s'intéresser au sort des Indiens ?
Je préférais voir la matière première, en quelque sorte. C'était difficile de le rencontrer parce qu'il avait des problèmes politiques. Et bon, moi, j'ai été voir les Indiens, j'ai vu un peu la situation et effectivement...
Ah, alors, on a un petit souci avec Rome et la RAI. On va essayer de rappeler Gérard Chalian. Jean-Vincent Olindre, je le qualifiais, le sous-commandant Marcos, de dernier guérillero médiatique. Est-ce que c'est une formule qui vous convient ?
Oui, dans le sens où effectivement, il y a tous les attributs de quelqu'un de médiatique. Le fait qu'il soit dissimulé, évidemment, a joué dans le caractère mystérieux et en même temps fascinant du personnage. Bon, Gérard Chalian a déjà dessiné une certaine critique de la figure du sous-commandant Marcos. Je suis pas allé sur le terrain comme lui, donc je m'engagerai pas sur ce terrain. Mais ce qui est certain, c'est que la dimension charismatique du chef de guerre est un élément important, mais c'est pas l'élément décisif. L'élément décisif, il y en a deux. C'est le temps. C'est-à-dire la capacité à durer dans le temps. Et ça, de ce point de vue-là, la guérilla ne diffère pas de la guerre. C'est-à-dire, la guérilla est une forme de guerre. Et le deuxième aspect, c'est le soutien populaire. Peut-être que tout simplement, ce qui a manqué, c'est peut-être ce que Gérard Chalian voulait dire, c'est le soutien populaire et le soutien réel des Indiens ou de la cause des Indiens.
Dimension charismatique non suffisante, mais importante tout de même, Antoine Baume, quand on est un guérillero et qu'on veut aussi faire connaître le combat que l'on mène, puisque ça fait partie aussi justement de la guérilla ou d'ailleurs de la guerre, que de pouvoir un peu médiatiser ce que l'on fait.
D'autant plus que le sous-commandant Marcos était d'abord un porte-parole. Il arrivait, il avait des attributs, ce qu'on a appelé le passe-montagne, cette pipe, il arrivait à cheval, enfin c'était un personnage qui débarquait, on venait le voir pour ça. Derrière, je pense qu'il n'y a pas seulement cet aspect physique, il représentait aussi quelque chose, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans les années 2000 un peu dans tous les esprits, il était une figure altermondialiste, il avait refusé qu'on emploie les armes, même si, à partir des années 2000, même si ça restait un mouvement armé, il incarnait aussi une certaine figure de pacifisme et de paix, malgré tout.
Gérard Chalian, on vous a retrouvé à Rome depuis les studios de la RAI. Je reste encore un instant sur le sous-commandant Marcos, puisque c'est lui finalement qui nous a donné l'idée de faire cette émission ce soir. Et il a quand même contribué à médiatiser ce qu'était la lutte et les conditions de vie des Indiens du Chiapas au Mexique. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce titre-là, au moins, sa médiatisation a servi la cause qu'il défendait ?
Véritablement. Aujourd'hui, il faut savoir attirer l'attention et à ce moment-là, beaucoup de moyens sont bons et je trouve qu'il a utilisé des moyens qui n'étaient pas justement violents. Quand on peut s'en passer, bravo.
Il y avait peut-être aussi une idée qu'on accole souvent au guerriero, qui est cette dimension un petit peu romantique que lui pouvait incarner et qu'incarnait avant lui quelqu'un, par exemple, comme Che Guevara. Je ne sais pas si vous avez davantage d'indulgence pour ce personnage que pour le sous-commandant Marcos, Gérard Chalian.
Bah oui, j'ai rencontré Guevara à Alger. Moi, je trouve que il s'est immortalisé en acceptant la mort. Mais sur le plan strictement stratégique, la théorie qu'il a émise sur le foyer stratégique mobile qui n'a pas besoin de préparation politique s'est avérée un fiasco complet et il l'a prouvé en Bolivie. Autrement, c'est un personnage très sympathique et c'est un homme de courage.
Vous avez même dit d'ailleurs dans une interview, c'était l'an dernier, je me souviens plus, pardonnez-moi pour quel journal, mais vous disiez sa mort héroïque à Che Guevara en 67 a transformé son échec absolu en victoire. D'un point de vue de la tactique, Antoine Baume, justement, vous en parlez de cette tactique qui a été élaborée par Che Guevara. Alors vous y voyez un redoutable tacticien.
J'y vois un redoutable tacticien sur le terrain, mais derrière c'est un fiasco total. C'est un fiasco, ça marchait à Cuba. Ça a marché à Cuba, il y a eu un message qui a été fait à la Tricontinentale en 67, si je ne me trompe pas, où il explique qu'il y a des conditions dans lesquelles la lutte foquiste, c'est-à-dire des points d'émergence, des foyers révolutionnaires, peuvent fonctionner. Et c'est notamment l'espace sud-américain, parce qu'il y a la même langue, la même culture, et puis parce que la lutte est déjà ancrée depuis 100 ans, 150 ans. Ça n'a pas fonctionné en Colombie. Ça n'a pas fonctionné non plus au Congo. Il est allé au Congo en 66. Il s'est retrouvé avec cette phrase, au bout de 7 mois de lutte, avec de tels dirigeants, ils en ont encore pour 100 ans de colonie. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que c'était sa théorie qui n'était pas adaptée au terrain.
Jean-Vincent Lindre.
Ce qui est certain, c'est qu'une guérilla a besoin d'un ancrage politique. Je parlais tout à l'heure du soutien populaire, c'est le point déterminant. C'est-à-dire, les guérillas ne sont évidemment pas invincibles. Très peu, en réalité, ont réussi à vaincre. Et si on prend un exemple qui nous est familier, qui est celui de l'Algérie, je ne sais pas si on peut qualifier cette guerre de guérilla. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un affrontement entre un faible et un fort, entre le FLN et la France. Et ce qui a été déterminant, c'est pas la dimension militaire, c'est la dimension politique, dans le sens où c'est l'opinion publique française qui, à un moment donné, ne pouvait plus accepter ce conflit, et donc De Gaulle qui a tant bien que mal négocié la sortie du conflit.
C'est d'ailleurs une des dimensions peut-être de la guérilla comme forme de combat que d'essayer d'arriver à harceler, voire à épuiser l'adversaire, même si le rapport de force est à l'avantage de l'adversaire.
C'est un élément essentiel effectivement. La guérilla est du côté de l'embuscade, du coup de main, de la ruse. de l'action psychologique, dans le sens où les faibles ne peuvent pas gagner sur le terrain conventionnel contre des forts. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que la guérilla a une formidable actualité. C'est que dans les combats actuels, les faibles parviennent, disons, à remporter un certain nombre de succès sans vaincre pour autant, par ces coups de main, par ces embuscades, par ces contournements. Et ça, c'est la définition de la guérilla. Petite guerre, ça vient de là, c'est-à-dire c'est la forme alternative de la grande guerre représentée par la bataille conventionnelle. Alors que la petite guerre, c'est beaucoup plus les coups de main et ce qui est, disons, l'alternative de la grande guerre.
Avant d'aller sur l'actualité de la guérilla, je voudrais voir avec vous, Gérard Chalian, est-ce que c'est en tout cas une façon de mener le combat qui est extrêmement théorisée et d'ailleurs qu'on peut faire remonter jusqu'à quand ?
À l'aube de l'histoire, ça a toujours été utilisé. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ça rentre dans la rubrique « guerres irrégulières ». La guerre régulière, on la connaît, c'est la classique. Les guerres irrégulières, c'est ça. Bon, la guérilla, ça comprend à la fois la guérilla, ça comprend également l'usage du terrorisme. Et ce qui s'est passé, c'est que les guérillas ont été à un moment mythiquement exaltés, à partir d'ailleurs de la réussite des Algériens, et qui a été mythifiée, et de la réussite des Cubains, qui d'ailleurs est accidentelle dans la mesure où il n'était pas question de faire une révolution marxiste-léniniste. C'était pour le pain et la liberté, ce qui fait qu'ils ont été suivis par un tas de gens à Cuba qui n'avaient rien à voir avec le côté révolutionnaire au sens marxiste-léniniste tel que ça s'est transformé en 61, et que les États-Unis sont restés neutres. Donc, en quelque sorte, l'affaire cubaine est un malentendu. En définitive, il n'y a pas eu un mouvement révolutionnaire au sens marxiste-léniniste tel qu'il s'est défini par la suite. Il y a eu des Robin des Bois qui se battaient pour le pain, la liberté, contre un dictateur qui était extrêmement impopulaire.
Est-ce qu'en ça, Gérard Chalian, elle diffère d'autres guérillas qui ont pu connaître une forme de succès parce que justement elle s'appuyait sur un projet politique et sur une adhésion beaucoup plus large de la population ?
Oui, quand on a affaire à une guérilla, disons, profondément nationaliste, où les types sont écrasés par des étrangers, ça, c'est très important. Est-ce que vous luttez contre un régime ou est-ce que vous luttez contre des étrangers ? Quand vous luttez contre les étrangers, bah, vous êtes porté par le nationalisme, par le patriotisme, c'est infiniment plus facile. C'est ce qui est arrivé en Espagne à l'époque napoléonienne. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les guérillas latino-américaines sont en gros disparues, les guérillas en Asie-Est sont en gros disparues, mais par contre, on a une foule de guerres irrégulières au Moyen-Orient et en Afrique, et il faut bien dire que, à quelques exceptions près, bon, ben ce sont les djihadistes qui sont aujourd'hui les combattants des guerres irrégulières. C'est comme ça.
Les djihadistes qui pourraient être des nouveaux guérilleros, Antoine Baume. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'a dit Gérard Chalian, mais enfin en tout cas, est-ce qu'on pourrait aller pour vous jusque-là ?
C'est-à-dire qu'il y aurait, à mon avis, les conditions politiques pour le faire. On sait que dans tout de même beaucoup de cas, c'est avant tout des motifs nationaux en fait, qui sont revendiqués avant d'être des motifs de religion. Voilà, les gens vont soutenir ça tout simplement parce qu'il y a eu des Américains sur le sol, parce qu'il y a eu des invasions de troupes. Après, dire que ça emploie une technique de guérilla, j'en suis pas sûr. Pour beaucoup, il y a des actes de terrorisme qui sont faits sur le terrain même, au sein du pays même qu'on vise à réunir. Moi, ça me paraît douteux de parler de guérilla précisément pour le djihad.
L'acte terroriste, pour vous, ça ne fait pas partie des outils de la guérilla ?
Ça peut en faire partie, ça dépend comment ils l'utilisent. J'aurais tendance à dire en fait qu'un acte terroriste va d'abord servir à diviser. Et on va chercher à diviser chez un ennemi. Au contraire, la guérilla, elle vise à unir. Pour cela qu'elle est d'abord politique. Je pourrais prendre un exemple, mais la Palestine a eu des phénomènes de guérilla urbaine, notamment du côté de Naplouse, des actes de terrorisme à l'extérieur du cadre palestinien, donc en Israël.
La guérilla qui cherche à unir, le terrorisme qui cherche à diviser, Jean-Vincent Hollindre, cette distinction vous convient ?
Pas complètement, parce que dans l'histoire de la stratégie, terrorisme et guérilla sont intrinsèquement liés, dans le sens où on est dans le registre de la guerre psychologique. En fait, ce que cherchent à faire ceux qui mènent la guerre régulière, ou la guérilla, qui est une espèce de guerre régulière effectivement, c'est de gagner sur le terrain psychologique et politique lorsque la victoire militaire conventionnelle n'est pas possible. Hein, la fameuse formule d'Aron, à défaut de vaincre, il leur suffit de ne pas perdre. Hein, et ça, c'est extrêmement actuel. Et c'est en ce sens, il me semble quand même qu'on peut considérer que les djihadistes sont les nouveaux guerriers irréguliers, dans le sens où ils n'ont pas les moyens de vaincre les États-Unis ou même la France, les armées conventionnelles. En revanche, ils peuvent les inciter, c'est ce qui s'est déjà passé en Afghanistan ou en Irak, à quitter le territoire parce que il y a un épuisement psychologique, politique de ces démocraties qui interviennent sans obtenir, disons, politiquement ce qu'elles souhaitent. Elles gagnent militairement, mais elles n'arrivent pas à vaincre politiquement.
Gérard Chalian.
D'accord avec Jean-Vincent Hollandre.
Vous êtes d'accord ou pas d'accord? J'ai pas entendu. Pardonnez-moi.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je trouve que aujourd'hui, une grande partie de ces problèmes depuis la guerre du Vietnam se joue dans les esprits et dans les volontés des opinions publiques. C'est ça qu'il faut atteindre. Nous, par exemple, nous avons admirablement, dans certains de nos médias, servi les buts du Daesh en passant en boucle la théâtralisation de l'horreur, à tel point que nous avons des opinions publiques qui sont apeurées. Bon, quand on a une situation de ce type, on informe, mais on ne déstabilise pas. Bien sûr qu'il s'agit d'une guerre irrégulière, que leur but nous paraisse absolument pas révolutionnaire, c'est une chose, mais ils travaillent de façon révolutionnaire. C'est-à-dire que le Daesh, par exemple, il cherche à entraîner une partie de la population en Irak. Il est servi à cet égard par les erreurs et la discrimination commises par les chiites, par le fait que leurs adversaires kurdes ne sont pas des Arabes. En d'autres termes, ils sont implantés révolutionnairement, même si le terme de révolution, en général, nous, on lui accorde quelque chose de positif. Mais on peut être des révolutionnaires au service de l'instrumentalisation d'une idéologie religieuse qui nous paraît archaïque et porteuse d'ailleurs d'échecs.
Est-ce qu'à propos des combattants de Daesh, Gérard Chalian, on pourrait reprendre la phrase de Mao Tse-Tung, le guérillero est dans la population comme un poisson dans l'eau, donc du coup, ce ne sont pas des combattants qui cherchent simplement à asservir, mais qui cherchent aussi une forme d'adhésion de la population?
En Irak, c'est le cas. En Irak, en milieu sunnite, à Mossoul, oui, ils sont chez eux, infiniment plus que des Kurdes, infiniment plus que des chiites. C'est comme si vous envoyez des Russes libérer la Pologne. Oui, il faut savoir ces choses-là. En Syrie, par contre, je dirais que le Daesh est négligeable, sauf à Raqqa, qui d'ailleurs est complètement marginale. La partie utile de la Syrie, eh ben, elle est tenue par les adversaires, c'est-à-dire d'une part par le régime de Bachar al-Assad qui contrôle les deux tiers de la population et par les mouvements islamistes du type Jabhat al-Nosra, Harar al-Sham, qui sont les adversaires du Daesh, mais qui eux sont implantés dans des régions hautement peuplées, urbanisées, et c'est là que la partie se joue, et on le voit bien aujourd'hui, ça se passe au nord d'Alep et tout ça, et pas du tout à Palmyre, qui est un truc au milieu de nulle part.
Jean-Vincent Lindre.
Oui. Terrorisme et guérilla, sur le plan technique, stratégique, sont liés. Mais là où on peut faire quand même une distinction, notamment à propos de Daesh, c'est que Daesh, comme vient de le dire Gérard Chalian, a un ancrage territorial. La guérilla, c'est aussi ça, c'est la dimension territoriale et d'ailleurs souvent la dimension agraire. On parlait de guérilla urbaine, c'est quand même la théorie de la guérilla, au départ c'est plutôt l'idée agraire. Mais en même temps...
Même si par la suite on a parlé de guérilla urbaine.
Oui, mais enfin c'est une expression dont on peut discuter. Ensuite, ce qui fait la différence entre Daesh et Al-Qaïda, c'est précisément cette dimension territoriale et le fait qu'il combine l'ancrage territorial en Irak et en partie en Syrie avec un terrorisme publicitaire mondialisé. C'est-à-dire avec des gens qui sont des Français et qui vont s'affilier à Daesh de manière diverse et qui vont commettre des attentats au nom de l'organisation. Et donc c'est ça qui est troublant. C'est d'un côté la dimension guérilla prolongée territorialisée, et de l'autre la dimension terroriste mondialisée qui relève d'une logique stratégiquement un peu différente.
Ce que vous écrivez, Antoine Baum, dans votre livre De Gandhi à Daesh, c'est que l'État islamique est un État avant d'être une nation homogène et le déplacement de ses actions sur le terrain de la guerre conventionnelle plutôt que sur celui de la guérilla, donc c'est là que vous faites la distinction, indique à quel point leur volonté de fédérer la population autour d'une cause commune a longtemps été secondaire.
Oui, a longtemps été secondaire. Ils étaient d'abord, et d'ailleurs ça a été l'action qui était promue par les grands textes du djihad, Al-Souri notamment, qui était de fédérer d'abord sur un côté spectaculaire. Alors il ne s'agissait pas d'aller attaquer les États-Unis. Pour toute cette frange du djihad, on estimait que les États-Unis, en fait, allaient ramener beaucoup plus de problèmes que ce qu'on avait déjà connu. Donc il fallait attaquer le ventre mou de l'Europe, ça avait été très clairement dit, et porter toutes les actions terroristes sur ce ventre mou de l'Europe. Mais il ne s'agissait absolument pas, au départ, de créer des conditions révolutionnaires à l'intérieur d'un pays. Il s'agissait simplement d'étendre une zone d'influence et d'amener des combattants étrangers à une cause.
Gérard Chalian, est-ce qu'on pourrait dire, puisque notre thème ce soir c'est la guérilla, que vous travaillez donc sur ces questions de guerre non conventionnelle et donc notamment de guérilla et de terrorisme, que le terrorisme finalement ça serait une forme d'outil à la disposition des guérillas et peut-être à la disposition de des guérillas qui ont le moins justement de moyens pour mener des actions de guérilla?
Vous voyez bien que chaque fois que le Daesh sur le plan militaire local, à un recul, il s'arrange pour faire des attentats spectaculaires ailleurs pour qu'on parle d'eux. Donc effectivement, c'est l'arme du plus faible. On s'en sert à des effets de propagande, on s'en sert à des effets de déstabilisation et on espère que ça sera relayé de façon à apeurer une population. De surcroît, dans le cas du Daesh, eh bien, il y a cette volonté de couper la population d'origine musulmane de la population, disons, autochtone ancienne, et de faire eux et nous, c'est ça qu'ils veulent. Et nous ne voulons pas ça. Nous disons, sont français tous ceux qui veulent le devenir et qui respectent l'état de droit. Et ce fossé, bon, ils ont essayé de le créer, par exemple, avec les incidents d'origine sexuelle à Cologne, pensant que la réaction des Allemands serait d'une telle brutalité que, bah, ils iraient détruire des mosquées et molester les gens, etc. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Si ça s'était passé au Moyen-Orient, le même phénomène de 130 types ou bien de viols en série, eh ben on verrait que le lendemain, il y aurait un pogrom considérable avec des destructions, parce qu'on n'a pas la même façon, disons, de manifester notre désaccord.
Et on n'a peut-être pas la même façon non plus de nommer les choses, puisque ce soir, on se pose la question de savoir s'il y a encore des guérillas. Alors, on a beaucoup parlé de Daesh, de l'État islamique, mais il y a peut-être d'autres guérillas dans le monde qui existent encore aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas nommées comme telles. Vous parliez, Gérard Chalian, de propagande. Est-ce que, je ne sais pas s'il faut parler de propagande, mais enfin, en tout cas, dans la façon de nommer ces mouvements, est-ce qu'on n'a pas substitué au terme de guérilla celui de terrorisme, Jean-Vincent Olindre, et que c'est peut-être aussi une façon de discréditer ces combattants, c'est-à-dire de dire, voilà, vous êtes des terroristes, donc vous n'êtes là que pour détruire et jamais pour construire.
Oui, effectivement, la difficulté du terrorisme, c'est que le mot désigne à la fois une technique de combat et une assignation, disons, politique et normative. Donc, à partir de là, il y a cette espèce d'ambiguïté. Et il y a aussi, quand même, la difficulté à voir la dimension stratégique et donc guerrière de la situation. Il me semble qu'il y a guerre à partir du moment où il y a un affrontement d'ordre politique avec souvent une dimension idéologique, ce qui, à mon avis, est le cas dans Daesh, et l'usage de la violence armée dans cet objectif politique. C'est la fameuse définition de Clausewitz de la guerre qui est adossée à des objectifs politiques. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, la guérilla n'est pas vouée à disparaître parce que, tout simplement, la guerre n'est pas vouée à disparaître. C'est-à-dire que, simplement, la situation stratégique contemporaine est telle que les affrontements sont asymétriques entre des faibles et des forts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'affrontements conventionnels, en partie, parce qu'il y a le parapluie nucléaire et que ces guerres conventionnelles ne sont plus possibles, ne sont plus probables. Donc au fond, la guérilla est on ne peut plus actuelle, et même si on n'utilise pas le mot, comme d'ailleurs on n'utilise pas le mot guerre, ou qu'on l'utilise pour des raisons politiques, la situation sur le terrain reste la même. Donc qu'on la voit ou qu'on la voit pas, qu'on emploie le mot ou qu'on l'emploie pas, le terrain reste le même.
Pour quelle raison est-ce qu'on l'emploie ou est-ce qu'on l'emploie moins, ce mot de guérilla, Antoine Baume?
Pour quelle raison on l'emploie moins? Je dirais, en fait, on emploie directement le mot terroriste parce que, généralement, tout simplement, déjà, ça dérange. C'est un mouvement, dans la plupart des cas, ça reste des mouvements de libération avant d'être des mouvements de conquête, des révolutionnaires qui emploient cette tactique, une tactique d'inspiration souvent en Amérique latine, notamment maoïste. Le but est de fragiliser un État, il est tout de même plus simple de les faire passer pour terroristes et de leur empêcher toute parole derrière. C'est ce qui s'était passé pour les FARC, c'est ce qui s'est passé pour le sous-commandant Marcos. On empêche absolument la parole du groupe à partir du moment où il est réputé comme tel.
C'est-à-dire finalement on délégitime les raisons de la lutte en les qualifiant de terroristes plutôt que de guérilla, par exemple les FARC en Colombie ou je pense notamment au PKK en Turquie qui sont considérés comme un groupe terroriste. Je ne pense pas qu'en Turquie on parle d'une guérilla pour parler du PKK, sauf peut-être les combattants justement de cette organisation.
Les combattants en eux-mêmes utilisent des techniques de guérilla. Bon, il faudrait revenir évidemment sur ce terme, mais ils ont employé assez longtemps des tactiques de guérilla urbaine. C'est comme ça qu'ils se déplacent sur le terrain. On ne les fait passer simplement pour des terroristes, alors que, à ma connaissance, ils ne s'attaquent à peu près qu'à des convois militaires ou à des casernes. Ils assiègent des villes, ils rentrent à l'intérieur. Le terrorisme, dans mon idée, ça ne s'attaque à peu près qu'à des civils. Le but est de répandre la terreur chez les civils. Ça sert simplement à délégitimer une action sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Ils veulent tout simplement avoir un Kurdistan qui soit libre à l'intérieur de la Turquie, enfin sur les frontières de la Turquie. Dire qu'ils sont terroristes, c'est simplement qu'ils veulent déstabiliser un État. Ils ne veulent pas aller plus loin que ça.
Bon, Gérard Chalian, quand on utilise le terme guérilla, c'est vrai qu'il y a une forme de noblesse, en tout cas peut-être pour certains, qui n'existe pas du tout lorsqu'on parle de terrorisme.
C'est George W. Bush, au début des années 2000, qui a dressé une liste de tous les mouvements qui déplaisaient aux Américains ou aux alliés des Américains et qui les a tous baptisés terroristes. Alors, un mouvement comme le PKK, là, que vous venez d'évoquer, dans les années 90, pour le combattre, l'armée turque mobilisait 75 000 hommes. Quand on mobilise 75 000 hommes, on ne lutte pas contre un mouvement terroriste, on lutte contre des gens qui ont une activité de guérilla. De surcroît, quand on parle de terrorisme, il faut aussi savoir si on parle de terrorisme aveugle, comme le Daesh par exemple, ou si on parle de terrorisme ciblé. Si je tue un militaire, si je tue un policier, je suis dans le terrorisme ciblé. Ce n'est pas m'attaquer à des civils de façon indiscriminée, de mettre une bombe dans un autobus, etc. Donc il faut sur ces choses-là être très rigoureux et ne pas, en fin de compte, servir la politique de tel ou tel État. Les faits doivent être les faits. Il faut aussi ajouter une chose, c'est que le terme de terrorisme trouve son origine dans la Révolution française et que les États utilisent le terrorisme. L'État turc est un État qui utilise le terrorisme à gogo. L'utilisation de la terreur, de la torture, comme dit très justement un observateur britannique, la terreur, la torture, c'est la terreur individualisée de la façon la plus extrême. Tout État qui terrorise de façon, qui torture de façon systématique est un État terroriste. Voilà, des choses qu'il faut rappeler. Dans le sale bigondi dans lequel nous vivons, où on parle de n'importe quoi sans très bien savoir ce que ça signifie.
Oui, effectivement, le terrorisme, c'est une action psychologique qui peut très bien être menée par des États. Il y a une terreur d'État, et de la même façon que la guérilla. Le mot vient de la guérilla espagnole du début du 19e siècle contre les forces napoléoniennes, mais sur le plan stratégique, la tradition de la guérilla vient de la petite guerre. Et la petite guerre, c'était ces troupes détachées des armées régulières qui menaient des missions spéciales, si j'ose dire, en parallèle de la guerre conventionnelle. Donc la petite guerre est née dans le sillage, si j'ose dire, de la grande guerre. Et l'histoire de la guerre, c'est l'histoire de la rencontre perpétuelle entre ces deux formes de guerre. Simplement, la guérilla s'est autonomisée sur le plan politique au 19e siècle, à l'âge des idéologies, au moment où l'idéologie est devenue un concept politique fondamental. Et c'est devenu un moyen pour des mouvements de contestation, des mouvements de libération nationale, des mouvements nationalistes, d'affirmer leur volonté politique en utilisant des moyens de violence alternatifs parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les moyens conventionnels, ne disposaient pas d'armées régulières. Donc ça, c'est très important de voir que l'histoire au fond de la guerre, de la guérilla et l'histoire de l'État sont étroitement liées. D'abord, c'est une histoire commune et ensuite, il y a une sorte de séparation.
Vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Vincent Olyndre, il y aura toujours des guérillas parce qu'il y a toujours des guerres. À ce titre-là, vous diriez, quelles sont les principales guérillas aujourd'hui pour vous dans le monde, sans faire une liste forcément
non, mais
exhaustive.
C'est difficile à dire, mais disons que je dirais que les techniques de guérilla sont partout, dans le sens où, à partir du moment où il y a un affrontement armé entre un faible et un fort qui s'appuie sur l'embuscade, l'action psychologique, etc., et qui a une revendication politique, on peut utiliser l'expression, même si peut-être qu'effectivement le terme de guerre irrégulière permet de mettre en évidence le caractère non conventionnel de la guérilla, alors que le mot guérilla simplement consiste à dire petite guerre. Donc là, effectivement, on peut évoquer le cas kurde, on peut évoquer essentiellement les cas africains et moyen-orientaux. C'est vrai qu'en Amérique latine, le terme guérilla vient d'Espagne. Et donc il y a le côté, cette espèce de romantisme révolutionnaire associé au personnage qu'on a évoqué en début d'émission. On n'est plus à l'époque de Somoza au Nicaragua ou à l'époque de Che Guevara. Donc c'est vrai que le terrain se situe beaucoup plus du côté de ceux qu'on appelle les islamistes radicaux aujourd'hui. Et c'est autour de cela que ça arrive. Mais il y a d'autres foyers, évidemment.
Est-ce que c'est cette dimension un peu romantique qui vous a fait vous intéresser, vous, Antoine Baum, à ces guérillas?
La dimension romantique, évidemment, parce qu'il y a, on parle de héros, on parle de vie, quand même, qui sont particulières. Si je reviens sur la définition que vous donniez tout à l'heure de la guérilla, Jean-Vincent Olyndre, il s'agit toujours d'un ancrage qui est territorial. Ces personnages-là incarnent une destinée. Ils incarnent le soulèvement d'un peuple à chaque fois qu'on est dans des histoires de guérilla, de conquête. Ils incarnent une histoire. Que ça soit le sous-commandant Marcos, que ça soit même les gens, pour le coup de d'âge, voilà, ils incarnent les cristallisations d'un peuple, presque au sens hegélien. Ils sont la conscience d'un peuple.
Je vous pose la même question, Gérard Chalian, qu'à Jean-Vincent Olyndre, sur les guérillas aujourd'hui, les principales guérillas dans le monde. Pour vous, il faut s'intéresser auxquelles ?
De très loin, ce sont les guérillas de type djihadiste aujourd'hui, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que en Afrique, on a la Libye, le Mali, le Nigeria, la bande sahélo-saharienne. Au Moyen-Orient, on a cette fixation sur Syrie, Irak, etc. Bon, voilà, c'est là que ça se passe. Ben, ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui sont ailleurs, comme par exemple en Inde, le long de la côte orientale, il y a une guérilla relativement bien organisée, fondée sur des éléments tribaux qui s'estiment être complètement marginalisés par rapport à cette Inde dynamique qui marche. Bon, il y a de ci, de là des choses. Mais enfin, pour l'essentiel, aujourd'hui, la guerre irrégulière, elle est indiscutablement trustée par les islamistes.
Et cette guerre, Gérard Chalian, on nous dit qu'elle a lieu également sur notre sol, puisqu'il y a des ressortissants français qui sont en mesure justement d'attaquer. Bon, on l'a bien vu à travers des attaques terroristes de ces derniers mois. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer que certaines zones en France deviennent des zones de guérilla djihadiste, ou ça vous paraît totalement improbable ?
Ça me paraît hautement improbable.
Pour quelle raison ?
Pour la bonne raison qu'ils sont très peu nombreux à être convaincus, et que quand on est très peu nombreux, il est beaucoup plus facile de faire un attentat terroriste que de s'organiser pour tenir un quelconque pan territorial. Non, franchement, je n'y crois absolument pas. L'État français, c'est quelque chose qui existe. On a tous les moyens. Et de l'autre côté, il n'y a pas du tout la volonté chez l'écrasante majorité des populations d'origine musulmane et qui sont français de participer à une aventure de ce type-là. Beaucoup sont intégrés, beaucoup travaillent, beaucoup ont un commerce. Ils ne vont pas se lancer dans une aventure à la con de ce genre.
Ça suppose quand même une certaine masse critique en termes d'effectifs, Jean-Vincent.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Gérard Chalian dans le sens où il n'y a pas d'ancrage territorial et il n'y a pas la guérilla urbaine ou rurale qu'en France, évidemment. Cela dit, il y a quand même des effets psychologiques des attentats terroristes. C'est-à-dire que moi, mon inquiétude personnellement ne porte pas sur l'éventualité d'une guerre majeure ou d'une guérilla en France, mais sur la dislocation du pacte politique et social, parce que effectivement, la réponse qu'on a apportée est une réponse essentiellement sécuritaire et qui a peut-être laissé un peu de côté la dimension politique et sociale et la nécessité de faire corps. De considérer que la France est un corps politique. La France continue d'être un corps politique solide, mais c'est un corps politique très fragilisé.
Antoine Baum,
Je reviens sur ce que disait Gérard Chalian à propos de la guérilla en France. Il me semble effectivement qu'il manque à peu près l'essentiel. Une guérilla, c'est quelque chose de politique. Et la politique, ça se construit. C'est pour ça d'ailleurs que Guevara avait absolument tout raté au Congo. Une politique, ça se construit, et ça se construit sur le long terme. Il faut des intérêts communs, des désirs communs, un espèce voilà, de volonté commune, d'agencement commun à la fin. Sans ça, on ne construit pas une guérilla. Et du coup, on se retrouve avec une situation où le terrorisme est finalement la voie privilégiée, pour deux raisons qui sont toutes simples. Un, c'est l'arme des pauvres, et deux, c'est une arme qui est rapide à mettre en place. Voilà.
Le coût d'entrée dans le terrorisme est très faible. C'est ce qui explique que des individus finalement assez marginaux et très minoritaires parviennent à faire autant de dégâts.
Et comme chaque fin de semaine dans Dur à Moudre, nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec ce soir Eric Eschiman. Bonsoir Eric.
Bonsoir Hervé.
Pour parler du dossier des pages débat de cette semaine, un féminisme musulman est-il possible ?
Oui, on s'est lancé dans une enquête sur un courant d'idées qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas dominant. On sait que depuis la première affaire du voile, il y a l'idée que l'islam et le féminisme ne sont pas compatibles. C'est un discours qui est porté par des féministes qui, en général, sont convaincus que les religions, en général, ne sont pas compatibles avec le féminisme, ni d'ailleurs l'idée de se libérer en général. Or, il y a un courant de femmes qui se revendiquent féministes, qui se revendiquent musulmanes, qui affichent leur foi et qui disent « non, on ne veut pas choisir entre notre libération en tant que femme et le fait de vivre notre religion ». Et on pense qu'on peut trouver dans le Coran de quoi, au contraire, non seulement ne pas être soumise à l'ordre patriarcal, mais même s'émanciper. Et donc, c'est un courant qui est né à des endroits assez variés, simultanément, en Malaisie, au Pakistan, aux États-Unis, en France. Et du coup, c'est un courant qui se lance dans un véritable travail d'exégèse, d'herméneutique, comme on dit dans les études bibliques. Et c'est pas sans rappeler le travail qu'un certain nombre de chrétiens de gauche ont fait dans les années 60-70, ou continuent à faire aujourd'hui. On peut penser à la théologie de la libération en Amérique du Sud, qui est une des références évoquées par une de ces musulmanes féministes. Parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, faut arrêter de penser qu'entre la foi et la libération de l'individu, il faudrait choisir. Nous, on pense au contraire que le texte du Coran a été tordu, déformé par le patriarcat. Mais quand on le lit vraiment, attentivement, quand on sait l'interpréter, on peut dégager, le redresser et voir qu'au contraire, c'est un appel à l'égalité. J'ai eu la curiosité d'appeler une théologienne catholique, qui elle-même est féministe, qui est Christine Pedodi, qui m'a raconté qu'elle-même faisait le même travail et qu'il y avait aussi des féministes juives. Ben, on pense à Delphine Horweiler, la rabbine, hein, qui a publié des livres sur ce thème. Donc finalement, il y aurait cette idée que les monothéismes ne sont pas forcément des outils fabriqués par le patriarcat, mais des moments de réflexion et d'émancipation et de libération qui auraient été déformés par le patriarcat. Alors évidemment, autant inutile de vous dire qu'une telle interprétation suscite bien des critiques et on s'en fait l'écho dans cette enquête. Les féministes laïques, comme on dit, ou universalistes, pensent que c'est pas possible et que entre l'islam et le féminisme, il faut choisir. Nous ouvrons le débat. Il y a en tout cas là un champ très intéressant, fertile et qui pour le moment n'est pas très connu.
Ouais, c'est donc un débat à retrouver dans le dernier numéro de l'Obs. Merci beaucoup, Eric Eschiman. Et on est presque à la fin de cette émission qui était consacrée donc aux guérillas. Y a-t-il encore des guérillas ? Y a-t-il pour vous une guérilla qui vous semble particulièrement exemplaire parce qu'elle l'aurait pourrait servir aujourd'hui encore peut-être de modèle, Jean-Vincent Olindre ?
Bon, je botte un peu en touche, mais
non.
Je passe un peu à Gandhi. Parce que finalement, au fond, il y a cette idée psychologique qui est mise en évidence et qui en même temps est adossée à un projet politique. C'est le livre d'Antoine Baume qui m'y fait penser. Parce que finalement, les guérillas au sens militaire ne sont jamais complètement réussies. En revanche, l'entreprise de Gandhi est à certains égards admirable.
Parce que le titre de votre livre, Antoine Baume, c'est « De Gandhi à Daesh ». Gandhi, un guérillero, ça vous semble une bonne définition parmi d'autres ?
C'est une définition parmi d'autres. En fait, il a réussi finalement là où d'autres avaient raté par les armes. Il a réussi à réunir une communauté, à réunir une nation autour de lui, et ça par tous les moyens dont il disposait, le moyen économique, le moyen religieux et puis la fibre nationale.
Et ben voilà, on aura réussi à trouver une conclusion commune. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, parce qu'il y avait également Gérard Chalian qui se trouvait dans les studios de la RAI à Rome. Merci à Jean-Vincent Olindre et à Antoine Baume. Donc je rappelle votre votre livre de Gandhi à Daesh, publié aux éditions Don Quichotte. Puis si vous vous intéressez à ces questions de guérilla et notamment de déradicalisation, je vous renvoie à un documentaire qui est passé sur Arte, c'était avant-hier, donc on peut encore le voir en streaming. C'est un documentaire signé Flore Vasseur qui raconte comment en Colombie, dans le conflit des FARC, on se sert de la publicité pour essayer de déradicaliser justement ces guerrilleros. Merci à tous. Et également un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédéric. Demain, nous serons en direct du stand de la MSA au salon de l'agriculture pour savoir qu'est-ce qui pousse certains à devenir agriculteurs. Tout de suite, c'est ping-pong avec Mathilde et avec Martin. Bonsoir.